monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 12 décembre 2024. Au Niger, 10 soldats ont été tués dans une attaque terroriste près du Burkina Faso. Après des mois de bruit, la Somalie et l'Éthiopie ont signé mercredi en Turquie un accord pour mettre fin aux tensions. RDC-Rwanda, sommet tripartite à Luanda le 15 décembre prochain.
Et donc quand nous parlons de désengagement de force, ce que le Rwanda appelle la levée de mesures défensives, en réalité, il s'agit en effet du désengagement de leurs forces de notre territoire.
Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC, nous en dira plus dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, Joe Biden accorde 39 grâces et commue 1500 peines. Le nouveau pouvoir en Syrie a promis d'instaurer un état de droit 4 jours après la chute de Bachar al-Assad. Ne manquez pas notre H-Sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. 10 soldats ont été tués lors d'une attaque djihadiste dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après une offensive contre un convoi de civils qui avait fait 21 morts du moins, dans la même zone. Alexandrine Ollognon.
L'armée nigérienne affirme avoir neutralisé 26 assaillants lors de l'attaque du détachement de Petel-Kolé qui a fait également 7 militaires blessés. Mercredi, des opposants et des blogs spécialisés sur les questions sécuritaires au Sahel mentionnaient sur les réseaux sociaux une autre attaque particulièrement sanglante contre la localité de Chatoumane dans le même département de Téra. Elles évoquent un bilan très lourd. Les autorités nigériennes ont démenti l'existence de cette attaque, évoquant des affirmations infondées. La région de Téra, située dans la zone dite des trois frontières, proche du Burkina Faso et du Mali, est régulièrement visée par les djihadistes proches d'Al-Qaïda comme de l'État islamique. Jeudi, 21 civils ont été tués dans l'attaque d'un convoi de marchandises dans cette zone, selon l'armée et des sources locales.
Amnesty International a réclamé dans un communiqué ce jeudi une enquête indépendante et impartiale et la garantie du droit à la liberté d'expression après la bousculade qui a fait des dizaines de morts dans un stade de football en Guinée le 1er décembre. Les critiques s'accumulent contre les autorités de Conakry depuis que le stade de Nzérékoré, deuxième ville de ce pays d'Afrique de l'Ouest, a été le théâtre d'un mouvement de foule mortelle lors d'un match de football organisé en l'honneur du chef du régime militaire au pouvoir depuis 2021, le général Mamadi Doumbouya. Le bilan provisoire officiel de 56 morts est contesté par des organisations locales qui évoquent 135 décès et 50 disparus. L'Union africaine a fortement encouragé l'Éthiopie et la Somalie à mettre en œuvre l'accord conclu hier entre les deux voisins pour mettre fin aux tensions concernant l'accès de l'Éthiopie à la mer. L'Union africaine a salué un acte important. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le premier ministre somalien Hassan Cheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont trouvé mercredi un accord sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon le texte de l'accord, l'Éthiopie et la Somalie sont convenus de travailler sur des accords commerciaux et bilatéraux qui garantiraient à l'Éthiopie un accès fiable, sûr et durable à la mer sous l'autorité souveraine de la Somalie. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed salue cet accord.
I believe that today's constructive discussions.
Je pense que les discussions constructives d'aujourd'hui nous pousseront à entamer une nouvelle année dans un esprit de coopération, d'amitié et de volonté de travailler ensemble, et non pas les uns contre les autres.
Les deux pays entameront des discussions techniques au plus tard à la fin du mois de février, qui s'achèveront dans les 4 mois. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a affirmé que son pays est prêt à travailler avec l'Éthiopie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit encourager la Somalie et l'Éthiopie à mettre en œuvre sans délai les mesures pertinentes adoptées.
Les forces fédérales somaliennes se sont retirées de leur position dans la région méridionale semi-autonome du Jubaland après des affrontements avec les forces régionales, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. La veille des affrontements entre les forces fédérales et les forces loyales aux autorités du Jubaland, région dirigée par l'ex-chef de guerre Ahmed Madobe, s'était produit pendant plusieurs heures dans et autour de la localité de Ras Kamboni, selon le gouvernement et des responsables militaires. En Tunisie, 9 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts et 6 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie lors d'une tentative de rallier clandestinement l'Europe. Selon Des témoignages de 27 autres migrants ont été secourus par les gardes-côtes tunisiens. Au total, 42 personnes se trouvaient à bord d'une embarcation de fortune partie dans la nuit de mardi à mercredi de la zone de Djebeni Annala, près de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie, a précisé Farid Benja, porte-parole des tribunaux de Monasti et de Madia.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président sortant Joe Biden a annoncé aujourd'hui avoir accordé 39 grâces et commué la peine de près de 1500 personnes. Les précisions avec Dili Dikou.
L'Amérique s'est construite sur la promesse de possibilités et de seconde chance, a déclaré le président sortant Biden. J'ai l'immense privilège d'accorder ma clémence aux personnes qui ont fait preuve de remords et de réhabilitation. Je gracie 39 personnes, a indiqué Biden, ajoutant qu'il a aussi commué les peines de près de 1500 personnes. Les présidents américains décrètent des centaines de grâces ou commutations de peines, avec une accélération notable à la fin de leur mandat. Selon la Maison-Blanche, il s'agit du plus grand nombre d'actes de clémence en un jour dans l'histoire américaine. Les 1500 personnes concernées purgeaient leur peine chez elles, parmi elles, un ancien combattant et pilote décoré qui consacre son temps à aider les membres de son église, une infirmière qui a dirigé les interventions d'urgence lors de plusieurs catastrophes naturelles et un conseiller en addiction qui travaille bénévolement. Début décembre, Joe Biden a gracié son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Son prédécesseur et bientôt successeur Donald Trump a gracié en 2020 Charles Kushner, père de son gendre condamné en 2004 à 2 ans de prison pour malversation fiscale.
Le nouveau pouvoir en Syrie a promis ce jeudi d'instaurer un état de droit 4 jours après la chute de Bachar al-Assad, au moment où le G7 se dit prêt à soutenir un gouvernement inclusif et non sectaire. Les précisions de John Lindon.
À l'issue d'une offensive fulgurante de 11 jours, une coalition de groupes rebelles, dominée par le groupe islamiste sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham, HTC, a renversé dimanche le pouvoir de Bachar al-Assad, qui s'est réfugié en Russie. Les nouveaux maîtres de Damas tentent depuis de rassurer la communauté internationale, alors que les pays occidentaux s'inquiètent de la façon dont ils vont traiter de nombreuses minorités en Syrie. À Rome, le G7 s'est dit prêt à soutenir une transition vers un gouvernement inclusif et non sectaire, et appeler ses nouveaux dirigeants à soutenir les droits des femmes, l'état de droit et les minorités religieuses et ethniques. Arrivé jeudi en Jordanie pour discuter de la Syrie voisine, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken doit aussi réitérer le soutien de son pays à une transition inclusive vers un gouvernement responsable et représentatif, selon le Département d'État. HTC affirme avoir rompu avec le djihadisme, mais il reste classé mouvement terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera mercredi, le premier ministre chargé de la transition en Syrie, Mohamed al-Bashir, a appelé les Syriens exilés à rentrer chez eux pour reconstruire le pays.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a mis en garde ce jeudi contre le déclenchement de nouveaux conflits en Syrie. S'exprimant lors d'une visite en Jordanie, M. Blinken a évoqué les activités militaires israéliennes et turques sur le sol syrien ces derniers jours et déclaré « En ce qui concerne de nombreux acteurs ayant des intérêts réels en Syrie, il est également vraiment important à ce moment précis que nous fassions tous en sorte de ne pas déclencher de nouveaux conflits. » Des signes d'optimisme parmi les responsables israéliens et palestiniens suggèrent que de nouveaux efforts sont déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, même temporaire, dans la bande de Gaza. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, est attendu en Israël où il s'entretiendra ce jeudi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jake Sullivan se rend rendra ensuite en Égypte et au Qatar, pays qui chapeaute avec les États-Unis les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Libérée dans son pays pour des raisons médicales, l'Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, a promis de ne jamais se laisser museler malgré son incarcération, selon des extraits d'une visioconférence avec le comité Nobel norvégien publié ce jeudi. Je sais que je peux faire beaucoup plus hors des murs de la prison, mais je ne laisserai pas l'emprisonnement me faire taire jamais, a dit la militante de 52 ans qui avait été auréolée du Nobel l'an dernier pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains. Et puis l'Europe doit impérativement sortir de sa torpeur et dépenser beaucoup plus pour sa défense, a averti aujourd'hui le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Les bourses mondiales ont salué mercredi la publication de chiffres sur l'inflation américaine en ligne avec leurs attentes et confortant l'hypothèse d'une baisse des taux de la réserve fédérale américaine Fed ce mois-ci. L'indice d'inflation CPI des prix à la consommation a montré une nouvelle accélération dans l'inflation en novembre aux États-Unis pour le deuxième mois d'affilée, à 2,7% sur un an contre 2,6% en octobre. La production mondiale de pétrole va augmenter plus vite que la consommation en 2025 malgré les efforts de stabilisation de plusieurs pays de l'OPEP soutenus par la demande de l'industrie pétrochimique qui fabrique des matières plastiques. Malgré les coupes volontaires de production de 2,2 millions de barils par jour par 8 pays membres de l'OPEP, la production mondiale aura augmenté de 630 000 barils par jour en 2024 et devrait progresser de 1,9 million de barils par jour en 2025, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie publiées jeudi. En riposte aux menaces du président élu Donald Trump, la plus grande province du Canada envisage de couper ses exportations d'électricité vers les États-Unis si Trump venait à mettre en place les droits de douane qu'il a promis. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à leur couper l'énergie, jusqu'au Michigan, jusqu'à l'État de New York et jusqu'au Wisconsin, a déclaré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. L'an passé, l'Ontario a exporté 12 milliards de kilowatts d'électricité vers les États américains du Minnesota, de New York et du Michigan, de quoi alimenter 1,5 million de ménages.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le président de la CAF salue le retour du mondial en Afrique.
Oui, Patrice Motsepe a félicité le Maroc après que le pays a été désigné comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, mercredi, se joignant à l'Espagne et au Portugal pour accueillir le tournoi à 48 équipes.
It's a great honor, but it's also a historic day for Africa.
C'est un grand honneur, mais c'est aussi un jour historique pour l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes très heureux et très enthousiastes à l'idée que le Maroc accueille la Coupe du Monde 2030. C'est une grande fierté.
On behalf of the 54 member associations.
Au nom des 54 associations membres de la CAF, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au peuple marocain et au gouvernement du Maroc.
The people of Morocco, the government of Morocco.
Patrice Motsepe, président de la CAF, l'Afrique du Sud a accueilli la Coupe du Monde en 2010, devenant le premier pays africain à organiser l'événement. La proposition combinée du Maroc, de l'Espagne et du Portugal permettra à la Coupe du Monde 2030 de se dérouler sur 3 continents et dans 6 pays. L'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueilleront aussi des matchs pour célébrer le centenaire du tournoi. L'édition 2034 a été attribuée à l'Arabie Saoudite, super puissance en gestation du sport mondial, seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie.
Ici en Coupe NBA, Atlanta s'est qualifié pour les demi-finales.
Les Atlanta Hawks se sont qualifiés pour les demi de la Coupe NBA en battant les New York Knicks 108-100 dans le Madison Square Garden. Atlanta va affronter Milwaukee en demi-finale demain à Las Vegas avant une éventuelle finale mardi dans la Cité du Jeu. Les Bucks et le Thunder d'Oklahoma City se sont qualifiés pour la finale à 4 en remportant leur quart de finale disputé mardi. Toutes les rencontres de cette Coupe NBA, compétition créée l'an passé, comptent aussi pour la saison régulière, sauf la finale.
Page des sports VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Un nouveau sommet sur la poursuite du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo va se tenir le 15 décembre à Luanda en présence des présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi sous la conduite du médiateur désigné par l'Union africaine João Lourenço de l'Angola. Pour en parler, Di Sango a reçu dans nos studios ici à Washington la ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda. Des étapes très importantes. La première étape, c'était l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août. Une deuxième étape très importante, c'était la mise en place justement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Un mécanisme constitué d'experts angolais, congolais et rwandais qui ont pour responsabilité de faire le suivi et l'évaluation du respect du cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 5 août. Novembre. Et la troisième étape importante, le 25 novembre, était en effet l'adoption du concept des opérations. Donc trois étapes très importantes qui, justement, sont des jalons qui sont supposés contribuer à une réponse, si vous voulez, au grief des deux parties, de voir comment les engagements qui sont pris dans le cadre d'un éventuel accord que les chefs d'État vont signer seront respectés. Et c'est là où nous prenons en témoin, justement, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont plaidé pour une résolution pacifique et diplomatique de la situation. Et donc, nous les responsabilisons aussi, parce qu'il est important que toutes ces parties prenantes se mobilisent aussi pour le respect des engagements qui auront été pris. Et c'est pour cela que le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité sur le fait que le mécanisme de vérification était bel et bien en place, opérationnel depuis le 5 novembre, avec les éléments angolais, mais justement que le Rwanda n'avait pas envoyé ses experts et que cela fait 35 jours. Et donc, c'est justement le rôle du Conseil de sécurité, c'est justement le rôle de la communauté internationale, mais aussi le nôtre en tant que partie prenante, de mettre la pression sur tous les acteurs pour que les engagements qui sont pris soient respectés.
Est-ce que cette fois-ci, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un calendrier pour les retraits de ces troupes ?
Le concept d'opération que nous avons signé, je ne vais pas divulguer tous les détails, mais il a un élément d'un calendrier, il a un élément d'une chronologie, et une chronologie justement qui est coordonnée par rapport aux deux piliers principaux, la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression qui n'est pas utilisé par Kigali. Kigali parle plutôt de la levée de mesures défensives. Le document parle d'une levée de mesures défensives du Rwanda, barre du désengagement des forces du Rwanda. Pour nous, la réalité est claire, et ce n'est pas juste la réalité présentée par la République démocratique du Congo, c'est la réalité documentée par les experts des Nations Unies qui attestent la présence d'au moins 4000 militaires rwandais sur le sol congolais.
La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Le président somalien Hassan Cheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont conclu, sous la médiation de Recep Tayyip Erdogan, un accord garantissant à l'Éthiopie un accès sécurisé à la mer sous la souveraineté somalienne, apaisant les tensions liées à un précédent accord avec le Somaliland. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar, au Sénégal, l'analyste politique Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa.
Dans cette affaire, le plus grand perdant, c'est le Puntland, qui a voulu, à travers cet accord signé avec l'Éthiopie, avoir une reconnaissance internationale. Je pense que avec ce qui vient d'être fait en Turquie, ça clôt pour un certain temps le chapitre du Puntland, qui ne peut jusqu'à présent qu'être considéré comme une partie intégrante de l'État de Somalie. Deuxièmement, cet accord est important parce que l'Éthiopie va devoir réviser sa copie et ne pas se considérer comme une puissance régionale, parce qu'en réalité, elle a perdu le combat. En allant jusqu'à signer cet accord, cela veut dire que l'Éthiopie accepte qu'elle a lui-même violé un certain nombre de règles et que cet accord-là lui permet de redorer son blason, à mon avis. Et troisièmement, l'ouverture des ports somaliens à l'Éthiopie permet aussi à l'Éthiopie de souffler un peu, parce que, vous savez, l'Éthiopie, pour le moment, n'a qu'une seule porte d'entrée pour tous les produits qu'elle consomme, c'est le port de Djibouti. Et pour qui connaît l'Éthiopie et connaît les problèmes que ce pays a aujourd'hui avec beaucoup de ses communautés, on se rend compte que bon, c'est même une planche de salut que lui a offert la Somalie.
L'Union africaine a salué cet accord. Comment vous analysez le comportement de cette organisation qui a son siège à Addis Abeba?
C'est vraiment une honte pour l'Union africaine. Une honte pour l'Union africaine et ses mécanismes. L'IGAD n'a pas été capable de trouver une solution à ça. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'ont pas pu gérer une situation aussi dramatique, une situation qui viole pratiquement les règles fondamentales de l'Union africaine, qui est le respect de l'intégrité territoriale des États et autres. Et donc, qu'un pays étranger à l'Afrique arrive à mettre deux pays africains d'accord sur le respect des règles que l'Union elle-même s'est données, ça veut dire que, d'une certaine manière, les mécanismes africains ne jouent pas leur rôle. Ça veut dire que l'Éthiopie n'a aucun respect pour les règles qui ont été mises en place par une organisation dont elle abrite le siège. Ça, quand même, c'est vraiment un sérieux problème pour le futur des relations africaines. Et ça, c'est vraiment dramatique dans une affaire comme celle-là.
Ibrahim Akane, du bureau ouest africain de l'ONG Osiwa. La dysfonction érectile en Côte d'Ivoire est une préoccupation croissante chez les hommes, conduisant souvent à l'isolement en raison de la nature intime de leur souffrance. Dans un contexte de stigmatisation et de recherche de solutions, des médecins et des thérapeutes se réunissent pour apporter leur soutien. Yacine Sio nous donne les détails, le récit est de Ginny Niwa.
Cela fait 3 ans que Junior, 23 ans, il ne veut pas donner son vrai nom, a perdu ce qu'il appelle sa virilité. La cause, la dysfonction érectile qui a perturbé sa vie amoureuse et l'a plongé dans une profonde tristesse qui persiste encore aujourd'hui.
J'avais des rapports avec ma conjointe, mon sexe n'arrivait même pas à s'élever. Ça veut dire que je suis en train d'avoir des rapports, mais il sent que je ne suis pas vraiment en érection. Elle m'a dit des paroles blessantes, disant que un homme n'arrive pas à satisfaire une femme. Voilà, donc c'était vraiment bizarre. Je n'ai pas en parlé à tout le monde, j'en parlais juste à mon ami et tout, même mes parents. Même ma soeur, mon frère, je ne l'ai pas dit parce que bon, c'est vraiment une honte.
Bien que les études spécifiques à la Côte d'Ivoire soient limitées, les résultats généraux dans les populations africaines suggèrent que la dysfonction érectile est souvent liée à des maladies chroniques et à des facteurs liés au mode de vie, à la culture et à la société. Dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la stigmatisation sociale entourant les questions de santé sexuelle peut entraîner une sous-déclaration de la dysfonction érectile, un sujet qui préoccupe beaucoup les médecins.
Si c'est au niveau de l'anxiété, on va proposer des thérapies. Si c'est le diabète, on va essayer de régler son diabète. Si c'est dû à sa drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de causes. On reçoit des personnes qui viennent réaliser des échodoppler péniens. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'on réalise l'écho Doppler du pénis. Ils ne savent pas. Or, c'est un examen également pour rechercher des causes de dysfonctionnement érectile. Contrairement à ce qui est fait d'ailleurs où on vous donne des traitements comme ça que vous prenez au pif sans savoir les répercussions encore que ça peut avoir sur la santé. Beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner des dysfonctionnements érectiles.
Au cœur d'Abidjan, sur la Riviera 2, une clinique offre un sanctuaire aux hommes qui souffrent de cette maladie. Le docteur Aka Félix est un praticien de santé naturelle connu pour son approche holistique du traitement de la dysfonction érectile. Il dit offrir des solutions simples pour aider les hommes qui sont blessés dans leur orgueil.
Cette alimentation est pratiquement cuite. Or, la cuisson enlève beaucoup d'éléments vitaux aux aliments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon récurrente, les dysfonctionnements érectiles reviennent chez beaucoup de personnes. Si vous prenez par exemple du céleri branche, et vous buvez un verre de céleri branche par jour, au bout de 4-5 jours déjà, le céleri va pouvoir vous apporter jusqu'à 60% d'érection.
Certains hommes se tournent vers des solutions moins conventionnelles, en utilisant des traitements naturels et des remèdes maison, dont beaucoup promettent des résultats miraculeux. Eunice Iriti est une commerçante qui vend l'un des remèdes traditionnels les plus populaires du pays dans la dysfonction érectile, le cure d'Anguro. Selon les revues médicales, Turae heterophylla est un arbuste dont la racine est utilisée depuis des siècles comme stimulant sexuel en raison de...
Voilà la promesse du président américain élu Donald Trump de procéder aux expulsions les plus importantes de l'histoire des États-Unis soulève des questions quant à sa faisabilité et sa légalité. La correspondante de la VOA pour l'immigration, Aline Barros, explique comment l'armée américaine pourrait être impliquée dans ces plans. Le récit est de Lionel Gaïma.
Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump a déclaré que le pire des problèmes de l'Amérique était l'immigration illégale.
Nous allons avoir la plus grande expulsion de l'histoire. Je ne suis pas fier de le dire non plus, mais c'est une chose difficile à faire.
Après sa victoire électorale, Donald Trump a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il dit vouloir déclarer une urgence nationale et déployer des troupes pour aider à ces expulsions. Selon Joseph Nunn, professeur de droit à l'Université de New York, la manière dont l'armée américaine pourrait être utilisée pour tenir cette promesse n'est pas claire.
Cela dépend vraiment de ce que le président envisage exactement en termes d'utilisation de l'armée, s'il veut que l'armée participe directement à l'application de la loi ou apporte un soutien plus indirect à une opération fédérale d'expulsion.
Le nouveau tsar des frontières, Tom Homan, prévoit une approche plus agressive, mettant l'accent sur les opérations d'expulsion et une plus grande implication de l'armée.
Nous allons avoir une opération d'expulsion massive et nous allons essayer de retrouver plus de 300 000 enfants qui ont été libérés par cette administration.
Homan cite un rapport de la sécurité intérieure indiquant que plus de 32 000 mineurs non accompagnés ont manqué des dates d'audience, tandis que plus de 290 000 n'ont reçu aucune notification. Les experts en immigration affirment que cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont portés disparus. Certains d'entre eux peuvent toujours se retrouver à l'adresse qu'ils ont indiquée. Aaron Rashlin Melnick du Conseil américain de l'immigration.
L'expulsion massive n'est pas la seule option. Les Congrès pourraient plutôt créer une nouvelle voie vers un statut légal permanent permettant aux nombreuses personnes vivant déjà ici de déposer une demande, de se soumettre à une vérification de leurs antécédents, de payer une taxe et de mettre leurs papiers en ordre.
La commission judiciaire du Sénat a discuté cette semaine des défis posés par les expulsions massives, les démocrates estimant qu'elles pourraient nuire à l'économie. Voici le sénateur Alex Padilla, démocrate de Californie.
Le fait est qu'il y a des millions d'immigrés sans papiers qui vivent aux États-Unis aujourd'hui et qui travaillent dans des secteurs essentiels à notre économie.
Et les républicains mettent l'accent sur l'état de droit. Écoutons le sénateur John Cornyn, républicain du Texas.
Nous donnerons suite à l'ordre d'expulsion par les tribunaux de l'immigration. Et encore une fois, nous n'accepterons pas que l'anarchie et la criminalité aux États-Unis deviennent la nouvelle normalité.
Les lois fédérales limitent l'implication de l'armée dans le maintien de l'ordre civil sans l'approbation du Congrès, mais des pouvoirs non urgents permettraient au président de déployer des troupes pour fournir un soutien logistique. Certains experts affirment que les soldats ne sont pas formés à l'application des lois sur l'immigration. De nouveau, Joseph Nunn.
Chaque militaire qui est entraîné dans une opération d'expulsion massive à l'intérieur du pays est un militaire qui ne fait pas son travail normal et qui ne remplit pas son rôle ordinaire en matière de sécurité nationale.
L'État du Texas offre à la future administration Trump plus de 550 hectares pour construire un centre de traitement et de détention pour ceux qui, selon le commissaire foncier de l'État, sera la plus grande expulsion des criminels violents dans l'histoire de notre nation.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.